RCF.
L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Cette semaine, le tribunal administratif de Lille a levé les derniers obstacles au démantèlement du camp de Calais. Les migrants vont donc prochainement quitter la zone. Plusieurs dizaines sont attendues dans les Pays de la Loire. Dans les villes où ils sont hébergés, certains maires font grise mine. Elle est franco-syrienne, a vécu à Alep pendant des années et a vu son pays tomber dans le chaos. Témoignage dans ce magazine de Judy, une sartoise juriste de formation qui œuvre aujourd'hui pour le dialogue interreligieux tout en venant en aide aux demandeurs d'asile. Manger local, 3 Français sur 4 y sont favorables, alors pourquoi si peu d'approvisionnement de proximité dans les restaurations collectives? Dans la rubrique initiative avec Anthony Torzek, nous verrons que l'État se veut se donner les moyens d'inverser la tendance. Il est prêtre et se mue cette semaine en chroniqueur cinéma. Le père Journeau de la Mayenne aborde cette semaine dans la pause spi 2 films à l'affiche des cinémas, le biopic sur le pape François et Les Pépites, un film sur le Cambodge. Enfin, côté sortie cette semaine, focus sur Octobre Rose et les nombreuses animations organisées à l'occasion de ce mois traditionnellement dédié au dépistage du cancer du sein. Voilà pour ce qui vous attend dans cette hebdo région présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'hebdo région, l'actu de la semaine.
Et quelques informations en bref. D'abord, passe d'armes entre la gauche et la droite jeudi et vendredi à l'hôtel de région à Nantes. En cause, les orientations budgétaires pour l'année prochaine. Elle est première de la nouvelle majorité. Le président Bruno Retailleau a annoncé une baisse des investissements et des économies de 100 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Objectif, baisser l'endettement de la région, un héritage des mandats socialistes précédents selon Bruno Retailleau. Des orientations budgétaires beaucoup trop floues selon les élus socialistes. Le mécontentement des policiers s'étend en France après Paris. Plusieurs villes de province voient l'organisation de rassemblements improvisés hors syndicat. Ça a été le cas mercredi soir au Mans et à Nantes, devant les commissariats de ces villes. Ils étaient une centaine en Sarthe et quelques dizaines en Loire-Atlantique rassemblés pour réclamer des réponses face aux violences dont ils sont victimes. Idem à Saumur, en Maine-et-Loire, jeudi. Ce mouvement fait suite à l'attaque au cocktail Molotov le 8 octobre dernier de 4 de leurs collègues à Viry-Châtillon. Des rassemblements auront lieu mercredi prochain dans toute la France, y compris à Nantes. Le syndicat L'Alliance Police Nationale exige, lui, la mise en place immédiate d'un Grenelle de la sécurité sur le département. On attaque à présent notre premier chapitre consacré aux réfugiés de Calais qui devraient bientôt quitter pour une grande partie le nord de la France. Bonjour Clémence de Sagazan.
Bonjour Bastien.
Après de longs mois d'âpres combats entre l'État et les associations d'aide aux demandeurs d'asile, ce que l'on nomme vulgairement la jungle de Calais est sur le point de disparaître.
En effet Bastien, toutes les conditions semblent réunies pour que le démantèlement commence et les opérations devraient débuter dès lundi. Le tribunal administratif de Lille a rejeté mardi la dernière requête de plusieurs associations dénonçant la précipitation dans laquelle s'effectuera, selon elles, ce mouvement de population.
Et les quelques 7000 réfugiés de Calais vont donc être dispatchés un petit peu dans toute la France.
Plus de 200 réfugiés débarqueront en Pays de la Loire. La préfecture du Maine-et-Loire avance le chiffre de 140 migrants accueillis sur son territoire. Celle de Loire-Atlantique évoque une cinquantaine de personnes hébergées à Saint-Brévin, ce qui a d'ailleurs provoqué des tensions dans la ville et quelques manifestations hostiles. En Mayenne, c'est le maire de Sainte-Suzanne qui semble tendu. L'arrivée prochaine de 50 réfugiés de Calais dans sa commune de 1200 habitants n'est pas pour lui plaire. Ils intégreront l'ancienne maison de retraite qui vient pourtant d'être fermée par l'Agence régionale de santé et le conseil départemental puisqu'elle n'était plus aux normes pour accueillir du public, d'où l'incompréhension de la population et du maire Jean-Pierre Morteveille.
C'est un peu frais quand même. L'EHPAD a fermé au mois de juillet, on est à peine refermer la cicatrice, elle est même pas refermée du tout, que déjà on nous donne une autre destination. Et puis effectivement, à mon avis, techniquement, un problème de nombre, c'est-à-dire 50 personnes pour Sainte-Suzanne, c'est comme si on avait 3-4 000 migrants d'un coup, ensemble au quartier Ferrier à Laval, ou 500 dans le centre d'Evron. Donc je trouve que la proportion est un peu difficile, et c'est ça qui m'a un peu inquiété, oui. Pourquoi à nouveau Sainte-Suzanne, puisque les grandes villes du département apparemment ne sont pas concernées? Je trouve ça un petit peu étrange. Pourquoi pas Laval? Pourquoi pas Château-Gontier? Enfin, et toujours Sainte-Suzanne. Donc c'est vrai que la population comprend mal ça. Les inquiétudes sont légitimes, enfin on peut les entendre. C'est les gens qui habitent juste à côté, puisque le bâtiment est situé en plein milieu du lotissement. Et c'est contre l'école. Donc les parents d'élèves, etc., se sont un peu inquiets de voir arriver ces 50 personnes juste à côté, etc. C'est des craintes sans doute infondées, mais on peut les entendre. Ça, c'est la population elle-même. Et puis, ça a été récupéré aussi par un parti politique à des fins purement électorales, ce à quoi on pouvait s'attendre. Et donc, j'ai déjà eu deux manifestations, une de 55 personnes la semaine dernière, et puis lundi, devant la salle du Conseil, pareil, une cinquantaine.
S'il est moins inquiet, Gilles Grimaud, le maire de Segré en Maine-et-Loire, se dit lui aussi amer quant à la situation. Sa ville doit accueillir 40 réfugiés de Calais et comme Saint-Suzanne, elle avait déjà participé à l'effort national auparavant. Elle héberge en effet déjà depuis plusieurs années des réfugiés au centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
On a ces 26 places à gérer, les suites aussi qui ne sont pas simples parce que toutes les personnes qui sont là n'obtiennent pas forcément leurs papiers, donc certaines d'entre elles sortent du système sans ressources, sans rien, et ils ne peuvent poursuivre leur suite de vie que grâce à des associations qui s'occupent d'elles. Donc, si vous voulez, on vit déjà ça sur ce gré, donc j'expliquais à Madame la Préfète, effectivement, que, bien sûr, nous ne sommes pas insensibles à la situation des uns et des autres, mais que, ici, à ce gré, nous sommes déjà très très concernés par le premier dispositif.
À Segré, ce sont donc 40 hommes qui vont prochainement débarquer au sein de l'ancien hôpital de la ville, idem à Douai-la-Fontaine dans le Saumurois. C'est d'ailleurs la première fois que la commune accueille des migrants. Le maire Michel Pathé se veut totalement neutre quant à ce nouvel hébergement.
Le rôle d'un maire n'est pas d'invectiver ou d'inciter à tel et tel positionnement. Je crois que le rôle d'un maire est de faire en sorte de prendre du recul et d'assurer surtout la sécurisation des biens des personnes et rassurer les personnes locales ici. Il y aura forcément des interrogations, des questionnements. Pour autant, il ne sert à rien de stigmatiser les personnes.
À noter que ces réfugiés devraient être accueillis pour une période de 4 à 6 mois jusqu'à mars-avril 2017.
Merci Clémence. Et pour être tout à fait complet, sachez que d'autres arrivées de réfugiés sont prévues à Nantes, mais la préfecture n'a pas confirmé l'information. En revanche, aucune nouvelle annonce du côté de la Sarthe et de la Vendée.
L'Hebdo Région, rencontre avec...
Et nous allons continuer de parler des migrants au Bury Métro. Bonjour.
Bonjour Bastien.
Et on le sait, les médias s'en font le relais. La situation à Alep est toujours catastrophique pour les civils. Mais pour éclairer cette situation, nous vous proposons aujourd'hui le témoignage d'une jeune chrétienne qui vit en Sarthe depuis 3 ans. Vous l'avez rencontrée au Bury.
Et oui, Judy a toujours vécu à Alep. Le seul moment où elle a quitté sa ville, c'est pour ses études, une licence de sciences politiques obtenue près de Damas. Elle vient ensuite en échange en France, à Lyon, alors que la guerre a déjà commencé.
C'était très très difficile parce que du coup j'étais tout le temps sur mon portable en train de voir Facebook, de voir ce qui se passait à Alep parce que... En fait, les médias, on les suit. Depuis 2011, on les regarde plus, nous les Syriens, parce qu'ils disaient n'importe quoi. Et donc, du coup, on faisait confiance que à nos amis sur Facebook qui mettaient des posts sur ce qui se passait, avec des photos de la rue ou des endroits, des explosions ou des bombardements. Et à chaque moment qu'il y a une explosion, un bombardement, j'appelais tout de suite Alep en pleurant et je rentrais dans des moments de dépression, même si mes parents ils me disaient « oui, ça va ». J'étais sûre que ça n'allait pas, mais qu'ils essayaient de me dire que ça va parce que je suis loin ou ils veulent pas que je sois perturbée par l'actualité.
Et l'histoire de Judy prend brusquement un tournant en 2013.
Et oui, elle rentre pour passer ses vacances d'été en Syrie. Nous sommes juste avant le blocus d'Alep et ses parents décident de partir quelques jours au Liban.
Ma famille, ils ont mis leurs affaires dans un petit sac, comme s'ils allaient 2 ou 3 jours au Liban. Après, il y a eu le blocus d'Alep, donc on peut plus accéder à cette ville. On était dans l'avion qui était parmi les derniers qu'ils ont quitté l'aéroport d'Alep parce que après, l'aéroport a été bombardé. Au départ, mes parents, ils savaient pas s'ils allaient quitter définitivement la Syrie ou ils allaient rester. Donc, ils sont restés un petit peu au Liban. Et à la fin, ils ont fait le choix de venir en France.
Des nouvelles au Bury des parents de Judy?
Oui, ses parents vivent maintenant avec elle en Sarthe. Ils ont même retrouvé du travail. Par contre, une partie de leurs proches sont restés bloqués là-bas en Syrie.
C'est pas facile de voir une partie de son identité, de son passé, de son enfance complètement détruite. Il ne reste plus rien. Mes amis seront dispersés dans le monde. Certains sont morts. Mon grand-père, l'année dernière, était mort suite à un bombardement. Il était mort de chagrin. le bombardement l'a pas touché personnellement parce qu'il était dans une autre chambre et une partie de sa maison a été détruite complètement. Après quelques jours, il était mort de chagrin. C'était très dur pour moi. J'ai vécu des moments très difficiles, mais après, j'ai, comme on dit en français, j'ai fait mon deuil.
Et aujourd'hui, Judy a obtenu son master. Elle travaille juste à côté du Mans. Elle est juriste dans une association qui vient en aide aux demandeurs d'asile. Elle aide des Africains, des Afghans, mais aussi des Syriens.
Aujourd'hui, il faut continuer. Je garde un œil sur Alep et mon cœur est là-bas, mais aussi je dois aller vers l'avant pour essayer de faire le maximum pour les gens qui viennent en Europe ou faire le maximum pour sensibiliser les gens à la question des migrants, des demandeurs d'asile, des réfugiés. Aujourd'hui, je dois montrer c'est quoi la réalité et aussi aller vers l'avant pour montrer qu'il y a encore, que la vie doit continuer et qu'il y a encore de l'espoir.
Judy est aussi bénévole à la Croix-Rouge et elle est présidente de l'association Coexister Le Mans qui milite pour le dialogue interreligieux et le mieux vivre ensemble. La jeune femme de 27 ans dit vouloir ainsi rendre à la France ce qu'elle lui a donné en l'accueillant.
Un témoignage proposé par Aubery, métro de RCF Le Mans. Merci Aubery. On poursuit notre magazine avec la rubrique Initiative.
L'Hebdo-Région, Initiative.
Vous ne le savez peut-être pas, mais 71% des Français préfèrent acheter des produits locaux. C'est presque 3 citoyens sur 4. Seulement entre la volonté et l'acte, il y a parfois un fossé. Et c'est le cas notamment dans les restaurants collectifs des Pays de la Loire. Bonjour Anthony Torzec.
Bonjour Bastien.
Les services de l'État ont enquêté et seulement 28% de l'approvisionnement de la restauration collective de la région proviennent d'achats de proximité.
Oui, les services de l'État sur la région des Pays de la Loire ont mis en place un observatoire de la restauration collective avec pour objectif, eh bien, la réalisation d'un état des lieux annuel de l'approvisionnement de proximité, le suivi et l'évolution de ces pratiques d'achat. On apprend donc, et vous l'avez dit, que 28% de l'approvisionnement de ces restaurants collectifs sur la région des Pays de la Loire proviennent d'achats de proximité. Uniquement 28% de produits locaux sur les 530 établissements de la restauration collective qui ont répondu au questionnaire. Les services de l'État veulent maintenant inciter les restaurants scolaires d'entreprises et autres établissements collectifs à acheter en priorité des produits locaux. L'objectif est de 40% de produits locaux. Mais au fait, pourquoi faut-il acheter en priorité ces produits locaux? La réponse de Jean-Noël de Cazeneuve. Il est chef du service régional de l'alimentation.
Les produits de proximité, déjà, ça permet d'avoir une filière qui est courte. Donc, vous avez déjà un geste pour l'environnement, pour économiser du carbone.
Moins de transport.
Moins de transport, le plus souvent. Et ensuite, parce que lorsqu'une entreprise de restauration collective achète des produits de proximité, c'est l'agriculteur, le producteur local qui profite de cet argent et qui ensuite peut faire vivre sa famille et surtout réinvestir. Et plus il y aura de relations entre le producteur local et la restauration collective, plus le commerce se développera entre ces deux personnes et l'agriculteur pourra planifier sa production en fonction de ce qu'a besoin le restaurant et le restaurant pourra ajuster ses besoins en fonction de ce que peut produire l'agriculteur. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant.
Pour l'instant, nous en sommes donc à 28% de produits locaux dans la restauration collective des Pays de la Loire. Mais l'objectif lancé par le gouvernement, c'est 40%. Comment peut-on y arriver? La réponse de Jean-Noël de Cazeneuve.
Le gouvernement a décidé que dans la restauration collective publique, il fallait 40% de produits de proximité ou bio ou sous signe de qualité. Je pense qu'on peut y arriver. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui vont affiner la traçabilité de leurs denrées, qui vont demander aussi à leurs fournisseurs de leur donner cette traçabilité. Hein, dans les marchés publics, on peut très bien inclure une clause en disant en fin d'année, vous nous faites le récapitulatif de l'origine de vos denrées. Et ça, pour le moment, ce n'est absolument pas fait, et ça serait aussi un moyen d'avoir un éclairage.
Justement, c'est ce que vous répondent les responsables de cantine aujourd'hui. Ils vous disent, il y a des appels d'offres, même au plan européen. Donc, quand on trouve une viande moins chère ailleurs, on va la chercher ailleurs.
Oui, mais les appels d'offres, c'est pas un appel d'offres forcément pour avoir le moins cher. L'appel d'offres, vous pouvez le diriger en fonction du prix, de la qualité que vous voulez,
de la proximité.
De la proximité, vous ne pouvez pas, ça c'est strictement interdit. Mais par contre, vous pouvez inclure des clauses environnementales, donc sur le transport. transport. Donc il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut jouer et qui permettent effectivement de permettre aux producteurs de proximité de répondre au cahier des charges.
Jean-Noël de Cazeneuve, le chef du service régional de l'alimentation, c'est 40% d'objectifs, ce sera pour l'année prochaine, dès l'année prochaine. Vous aurez toutes les informations sur cet observatoire de l'approvisionnement de proximité mis en place sur la région des Pays de la Loire en allant sur le site internet de la Direction régionale de l'agriculture.
Merci Anthony pour ce point complet. Cette information, en bref, la start-up lyonnaise FlexSense vient d'inventer l'huître mystère. Ce système permet d'éviter les vols dans les exploitations conchylicoles. C'est en fait un faux coquillage qui, dès lors qu'il entre en mouvement, envoie une alerte à son propriétaire. Il est aussi localisable grâce à un réseau d'antennes relais sur le littoral. Depuis septembre, date à laquelle le produit a été commercialisé, l'entreprise vendéenne affiche un chiffre d'affaires de près d'1 million d'euros. Sans plus attendre, on passe à la pause spi.
L'hebdo-région, pause spirituelle.
Et pour cette pause spi, on part direction la Mayenne où nous attend Samuel Pécaud. Bonjour Samuel.
Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous. Et
depuis quelques jours, le pape François est à l'affiche de la plupart des salles de cinéma de la région. Il fait l'objet d'un biopic, mais que pense la communauté catholique de ce long métrage sur le Saint-Père? Vous avez demandé Samuel son avis au père David Journeau, jeune curé d'une paroisse près de Laval. Alors d'abord, il nous le conseille, ensuite il nous invite même à retourner dans les salles obscures pour un autre film qui le touche personnellement, Les Pépites. Une œuvre sur une association du Cambodge.
Oui Bastien, effectivement, le père David Journeau est en quelque sorte notre chroniqueur cinéma pour l'occasion, parce que oui, il a voulu savoir ce que disait ce film sur le pape François, savoir ce qu'il disait de notre Saint-Père, et vous pouvez y aller sans souci, c'est selon lui un bon film pour comprendre l'homme qui se cache derrière notre pape.
L'angle qui est pris pour ce film, c'est l'adaptation d'une biographie du pape François faite par une journaliste espagnole, donc qui est représentée dans le film, et donc se concentre sur les années de cardinalat, enfin d'archiépiscopat, comme on dit, du pape François quand il était archevêque de Buenos Aires. Donc on a aussi le premier conclave auquel il participe, qui va avoir l'élection de Benoît XVI, et puis le conclave où, évidemment, il est élu pape. Et donc c'est ces années de rencontres entre cette journaliste et le cardinal Bergoglio. Donc on voit la vie du cardinal à travers les yeux de cette journaliste, et puis ça nous apprend quand même aussi beaucoup de choses sur cet homme, que les gens, évidemment, ont découvert depuis son élection comme pape, mais qui était vraiment déjà tel qu'il est aujourd'hui quand il était archevêque de Buenos Aires. J'ai une scène en tête du film où il va célébrer la messe sur un piquet de grève des éboueurs de Buenos Aires, et voilà, tout cardinal qu'il est, il célèbre la messe sur une table sur le piquet de grève au milieu des éboueurs, quoi. C'est intéressant d'aller voir effectivement le caractère de cet homme et ce qu'il a pu déjà accomplir quand il était archevêque de Buenos Aires, où il demandait que les gens l'appellent Père Georges. Quand on lui disait Éminence ou Monseigneur, il disait Père Georges, tout simplement. Et voilà, c'est un homme d'une grande simplicité, d'un grand courage, et c'est un film qui aide à mieux le comprendre, je pense.
Alors pour tout vous dire, si nous avons interrogé le père David Journeau, c'est surtout pour l'autre film, Les Pépites, qui est aussi à l'affiche des cinémas en ce moment, parce que le père Journeau a été coopérant 2 ans au Cambodge entre 97 et 99, et là-bas il a rencontré Christian et Marie-Françoise Despalières qui ont fondé l'association Pour un sourire d'enfant, dont le magnifique travail est mis à l'honneur dans ce superbe film.
Christian Despalières venait d'arriver à la retraite. Et il avait été sur une mission courte au Cambodge pour aider à restructurer l'éducation là-bas, hein, puisque après la période Khmer Rouge, tout avait été détruit. Hein. Le père Ponchot avait écrit un livre « Cambodge année zéro », c'était vraiment ça, c'est-à-dire que le Cambodge a redémarré à zéro après à cause des Khmer Rouges. Et puis il est allé sur cette décharge, qui finalement est pas si grande que ça, mais qui était très très impressionnante à l'époque, moi j'y suis allé aussi. Et il a vu ses enfants de 4, 5, 6 ans jusqu'à 13, 14, 15 ans qui vivaient en ramassant ce qu'ils pouvaient trouver dans les ordures, et il s'est senti appelé et il s'est dit qu'il pouvait pas ne rien faire. Donc il est rentré en France chercher son épouse, lui expliquer. Ils ont vendu quasiment tout ce qu'ils possédaient en France pour repartir au Cambodge avec une première mise de départ et lancer leur œuvre.
Cette œuvre qui a été soutenue par des parrains dans le monde entier, et notamment en France, et qui a permis à près de 10 000 petits Cambodgiens d'accéder à l'éducation pour se construire un avenir. Malheureusement, Christian Despalières nous a quittés il y a quelques semaines, ce qui rend ce film encore plus émouvant.
c'est pas juste dû au fait que moi je connais le Cambodge et que j'aime le Cambodge, parce que la plupart des gens qui étaient là, la salle était pleine, ont été vraiment aussi saisis. On navigue de l'horreur parfois, parce qu'on a les témoignages d'enfants qui expliquent que, parce que non seulement ils étaient pauvres, mais il y avait aussi de la violence familiale, il y avait de l'alcoolisme chez les parents, etc. Certaines petites qui ont été vendues ou forcées de se prostituer. Enfin, il y a des choses terribles. Et puis, on pleure presque de joie quand on voit ce que ces enfants deviennent grâce à Christian et Marie-France. Donc, on est vraiment, on rentre dedans par les émotions, par les sentiments. C'est très, très beau. Et la musique est très bien aussi.
C'était donc le père David Journeau, curé de la paroisse de Luistry près de Laval, qui, vous l'avez entendu, vous invite doublement à vous rendre dans les salles de cinéma cette fin de semaine.
Merci Samuel. Une bonne idée en tout cas pour se cultiver tout en se divertissant. On passe à la dernière partie de cette émission.
L'Hebdo-Région, si on sortait.
Et comme la semaine dernière, on termine ce magazine avec vous, Fanny Brevet, bonjour.
Bonjour Bastien, bonjour à tous.
Alors ce n'est pas forcément très gai ce que l'on vous propose cette semaine en sortie, mais ça nous tenait à cœur de vous inviter à prendre part aux activités organisées dans le cadre de ce mois d'octobre traditionnellement associé, Fanny, au dépistage du cancer du sein.
Oui, et dans le cadre de la campagne Octobre Rose, de nombreuses animations sont organisées ici en Vendée, comme un cours de Zumba, un spectacle de théâtre et de danse ou des portes ouvertes, avec toujours le même objectif, rappeler l'importance du dépistage. Un geste essentiel quand on sait qu'une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. En Vendée, c'est l'association Audace qui est en charge du dépistage organisé. Son président, le radiologue Christophe Fablet, revient sur l'intérêt d'un dépistage précoce.
Alors, le dépistage précoce est très, très important. C'est le seul traitement véritablement efficace du cancer du sein, puisque plus il est pris tôt, plus le geste chirurgical est limité et efficace. Le but étant de traiter la lésion avant qu'elle ne s'essaime, qu'elle crée des métastases, notamment ganglionnaires en premier. C'est pour ça que le dépistage est très important, puisque c'est une tumeur qui généralement est très difficilement palpable, qui ne fait pas mal, qui n'a aucun signe clinique, pas de fatigue, rien, aucune douleur, rien. Donc le seul moyen actuellement de dépistage, de diagnostic, c'est la mammographie. Ça fait au moins une quinzaine d'années qu'on fait ça. Je pense quand même qu'on est arrivé à infléchir la pente des décès par cancer du sein, qui reste toutefois très importante, puisque en France, 12 000 femmes décèdent encore chaque année de cancer du sein. C'est trois fois plus que les accidents de la route, pour se donner un ordre d'idée. Ce qui est sûr, c'est que le dépistage précoce permet de traiter des lésions de petite taille qui ont une rémission à 5 ans d'environ 90%. Donc c'est un excellent résultat, avec des interventions peu mutilantes. De toute façon, on améliore considérablement la qualité de vie des femmes.
Et Fanny, qui sont les femmes justement concernées par ce dépistage organisé ?
Eh bien, ce sont les femmes âgées de 50 à 74 ans, âge où le risque est le plus élevé, même si aujourd'hui, de plus en plus de femmes développent des cancers du sein entre 30 et 40 ans. Et donc, tous les deux ans, les femmes concernées reçoivent une invitation de l'association Audace.
Elles prennent rendez-vous dans les cabinets de radiologie, on fait le cliché mammographique, il est interprété. Dans la plus grande majorité des cas, cet examen est normal, et quand il est normal, il est envoyé pour une deuxième lecture systématiquement à l'association Audace, pour une lecture par un autre radiologue, qui conclura également, dans la majorité des cas, la normalité, puisque les deux, il y aura une convergence de résultats. Quelquefois, il y a une divergence, et le deuxième radiologue va demander quelques examens complémentaires, que ce soit une échographie, quelques clichés localisés en plus, afin d'assurer la normalité de cet examen. Et bon, dans l'autre cas, quand on diagnostique la tumeur du sein directement, ou qu'on a un doute sur le diagnostic, en fait, la femme sort du dépistage et on préconise des examens complémentaires. Ils sont souvent soit une IRM, soit une biopsie avant d'un éventuel traitement chirurgical.
En Vendée, le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein atteint 60%. C'est l'un des meilleurs de France. 32 000 femmes ont été dépistées en 2015.
Et on rappelle, Fanny, que plusieurs animations se mettent en place lors de ce mois d'octobre, notamment en Vendée, dans votre département et dans tous les autres départements des Pays de la Loire. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet. Merci, Fanny. Une nouvelle récompense pour le Puy du Fou. Le parc à thème vendéen a reçu le prix de la meilleure attraction européenne de l'année pour sa création, le dernier panache. Dans un communiqué, la direction du parc indique que ce prix vient saluer l'excellence technique et artistique de ce spectacle. Un spectacle intégralement imaginé et produit par le Puy du Fou. Et puis une dernière information sportive. En tennis de table, c'est mardi qu'ont débuté les championnats d'Europe de Budapest en Hongrie. Deux représentants du Maine-et-Loire participent au rendez-vous. Le français Emmanuel Lebesson et le roumain Adrian Crisan, respectivement 38 et 52e joueur mondial. Le premier évolue à la Vaillante d'Angers, le second à la Romagne. C'est la fin de cette hebdo région. Votre magazine d'actualité vous était présenté aujourd'hui par la rédaction de RCF Anjou avec l'aide des autres rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire. Merci de nous rester fidèles. On se retrouve dès la semaine prochaine.